On va continuer ensemble de réfléchir sur ce que la Bible nous enseigne à propos de l'Église. C'est notre fil rouge, c'est notre thème que nous abordons déjà depuis le début de cette année, dimanche après dimanche. Et si nous le faisons, bien évidemment, c'est dans la perspective de ce qui se présente devant nous. Et on a fait un pas supplémentaire la semaine dernière en acceptant cette offre pour l'achat de ces locaux ici. Alors, c'est qu'un premier pas, c'est une première pierre, il y en a d'autres qui vont suivre. Et on va vraiment avancer avec foi, en regardant là au Seigneur, au Christ, et voir comment les choses vont se mettre en place pour la suite des événements. Mais il y a une vision qui est là, qui est posée, qui a été partagée déjà plusieurs fois avec nous, par Daniel, qui est celle de la multiplication. Et je voudrais vraiment qu'on puisse voir, en s'appuyant en particulier sur le livre des Actes, à quoi correspond cette vision? Quelle est la perspective à laquelle correspond la multiplication? Donc le message d'aujourd'hui est intitulé « L'Église dans le temple et les maisons », vous allez comprendre pourquoi. Et il va y avoir deux parties. On va voir tout d'abord dans une première partie quelles sont les bases bibliques de la multiplication. Et puis dans une deuxième partie, nous verrons ensemble la gestion de la multiplication. Comment les premiers chrétiens, les chrétiens de Jérusalem, ont fait face à la multiplication et à la croissance de leur Église. Tout d'abord, les bases bibliques de la multiplication. Lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, il y a quelque chose qui est vraiment frappant, c'est que l'Église de Jérusalem connaît une multiplication, une croissance très rapide, presque, on pourrait dire, fulgurante. Au début du livre des Actes, il est question de 120 disciples qui sont réunis et qui prient ensemble. Et puis, au bout de quelques chapitres, il est question de 5000 personnes. On est passé de 120 à 5000 personnes et certainement même plus de 5000 personnes en un temps assez court. Alors, on peut revoir les textes ensemble parce que je veux vraiment qu'ensemble, on revienne à la parole et que vous puissiez voir justement quels sont les textes sur lesquels sont fondés cette vision de la multiplication. Il est question des 120 en Actes 1,15 où il est dit qu'en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères et le nombre des personnes réunies était d'environ 120. C'est le premier chiffre qui nous est donné et qui décrit la population qui compose l'Église de Jérusalem. On va un peu plus loin, chapitre 2, verset 41. Ces textes nous avaient été donnés par Ulrich au tout début, lorsqu'on a commencé à aborder ce thème de l'Église. Il nous est dit qu'après la prédication de Pierre à la Pentecôte, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc on passe de 120 à 3000. On va au chapitre 4, verset 4 du même livre des Actes. Et il est dit que beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Et quand on continue la lecture et qu'on va beaucoup plus loin au chapitre 21, verset 20, il est question de Paul qui, après ses voyages missionnaires, revient à Jérusalem. Il va voir Jacques, l'un des responsables de l'église de Jérusalem. Et Jacques s'adresse à Paul en ces termes. Il entend tout ce que Dieu a accompli au travers de la mission et de la prédication de Paul. Et quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent, tu vois, frère, combien de milliers de juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Des milliers de juifs. Ce qui semble dire qu'après les 5000, il y a encore des personnes qui sont devenues chrétiennes à Jérusalem et l'Église a grandi. L'Église s'est multipliée. Les apôtres et les premiers disciples n'ont pas été motivés par faire du nombre. On ne voit pas les apôtres et les premiers chrétiens, là, lorsqu'ils étaient 120, se réunir et se dire « Bon, ben voilà, on est 120 et on va se donner l'objectif que dans 3 semaines, dans 1 mois, on va être 3000. » Ce n'est pas du tout ce qui les anime. Ce n'est pas ça leur vision. Leur motivation, c'est d'accomplir la vision que Jésus leur a communiquée et de partager l'espérance qu'eux-mêmes avaient reçue. Ils savaient ce que Jésus leur avait apporté, ils l'avaient vécu, et ils étaient porteurs de cette espérance, ils étaient porteurs de ce message de salut. Et leur vision, c'était de communiquer cela autour d'eux. Vous vous souvenez, on l'a vu la dernière fois qu'on a parlé ensemble, dans Actes 1-8, elle est là la vision. C'est cette vision que Jésus a donnée à ses disciples. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Et vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Et cette croissance, elle est remarquable à chaque étape de l'accomplissement de cette vision. En Samarie, là ça c'est l'étape après Jérusalem et la Judée. En Samarie, lorsque Philippe annonce l'évangile, il nous est dit en Actes 8-6 que les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Les foules tout entières. Et alors qu'on continue d'être sur le chemin des extrémités du monde pour aller vers Rome, on arrive à Antioche, en Syrie, donc dans le monde païen, et en Actes 11-21, il nous est dit que la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Et alors que Paul a traversé la mer, qu'il a mis le pied en Europe, il est en Grèce, il est à Corinthe, il rencontre de l'opposition, il est même saisi par la crainte parce qu'il voit que la communauté juive à Corinthe s'oppose à lui. Il va même comparaître devant les autorités judiciaires de la ville de Corinthe. Mais il nous est dit, acte 18-9, alors qu'il est là dans le trouble, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « N'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas, car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il n'y avait que quelques disciples qui étaient réunis à Corinthe, et la majorité des gens qui avaient entendu le message de l'Évangile ne l'acceptaient pas. Paul ne voyait pas physiquement, matériellement, un peuple nombreux, mais Dieu lui dit, le Seigneur lui dit, il y a un peuple nombreux dans cette ville, il y a un peuple nombreux ici à Corinthe. C'est la vision de Dieu. Et à chaque fois qu'on progresse, à chaque fois qu'on va d'une étape vers une autre étape, on voit que le désir de Dieu, c'est de toucher le plus grand nombre. C'est ça la vision de la croissance et de la multiplication. L'Église, qui est composée des milliers de personnes qui reconnaissent Jésus comme leur sauveur, est la manifestation du désir profond que Dieu a de voir les gens sauvés. Lorsque Jésus a annoncé à ses disciples qu'il mourrait à la croix, et cette parole, on la trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, verset 32, il a dit, « Moi, quand j'aurai été élevé de la terre, lorsque je serai sur cette croix et que j'accomplirai le salut pour les hommes, j'attirerai tous les hommes à moi. » Tous les hommes. La vision de Jésus, c'est « Je meurs, mais c'est pour tous les hommes, pour un grand nombre. » Et l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit sa première lettre à Timothée, il dit, à Timothée, chapitre 2, verset 3, « Cela est bon et agréable de prier pour les autorités devant Dieu notre Sauveur, Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Le désir de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. La vision de la multiplication, ce n'est pas une aspiration à faire du nombre. On n'est pas dans une entreprise à se fixer des objectifs chiffrés, vous comprenez bien. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un but en soi, la multiplication. C'est une vision qui se cale sur ce que la Bible nous présente comme logique dans la vie d'une Église. Une Église vivante, une Église qui vit de la vie de Christ, une Église qui croit en l'action et en la présence du Saint-Esprit, c'est une Église qui aspire à grandir, à ce que le message de l'Évangile puisse toucher le plus grand nombre et que ces personnes composent volontairement l'Église, ce peuple de Dieu. Le résultat ne dépend pas de nous. On retrouve quand même ce texte aussi dans Acte 9, puisque c'est vraiment sur le livre des Actes qu'on se penche ensemble, verset 31, où il est dit que l'Église était étampée dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est pour ça que ça ne sert à rien de se donner des objectifs en termes de nombre, parce que le résultat ne dépendra pas de nous. Le résultat dépendra de la manière dont les cœurs seront ouverts, et chacun reste libre face au message de l'Évangile et de l'œuvre du Saint-Esprit. On sait comment ça s'est passé pour nous, et c'est comme ça que ça se passe, c'est appelé à se passer pour n'importe quelle personne qui entend l'Évangile. Il y a ce travail spirituel qui se fait là, au plus profond, mais notre part, c'est d'avoir la foi et de se donner les moyens de partager le message de l'Évangile. Une Église en marche, une Église qui est guidée par une vision, c'est une Église qui ne regarde pas simplement au travail qui a été fait ou au travail qui est fait, mais aussi au travail qu'il y a à faire. Jérusalem, c'est bien, mais derrière il y a la Judée. Jérusalem et la Judée, c'est bien. Mais derrière, il y a la Samarie. Jérusalem, la Judée et la Samarie, c'est bien. Mais derrière, il y a les extrémités du monde. Et à chaque fois, une vision, ce qui doit faire avancer notre Église, c'est ce qui va nous porter notre regard vers l'horizon. C'est toujours ce qui va porter notre regard plus loin que ce que là où nous en sommes. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être ensemble. C'est pour ça qu'on a besoin de prendre conscience de ces choses ensemble. C'est pour ça qu'on y revient et qu'on en parle encore ensemble. Cette vision-là, elle a animé nos pères. Daniel nous l'a rappelé la dernière fois, pas plus tard que la semaine dernière. Et cette vision-là, maintenant, on est appelé à la porter pour pouvoir franchir les étapes suivantes. La croissance de l'Église pose rapidement un problème à Jérusalem. Un problème très pratique, c'est qu'il faut trouver un lieu qui puisse permettre de rassembler tout ce monde-là, ou du moins un maximum de monde. Quand on devient une église composée de milliers de personnes, le problème de la place se pose. Et il n'y avait pas 36 solutions à Jérusalem. Jérusalem, c'est une ville qui était enfermée dans des murailles, composée plutôt de petites rues, il n'y a pas de grande place. Et l'endroit le plus vaste pour pouvoir se réunir, il n'y en avait qu'un seul, c'était le temple de Jérusalem. Et c'est pour cette raison qu'il va devenir le lieu de rassemblement de l'Église. Et il nous est même dit à deux endroits, en Actes 3.11 et Actes 5.12, il nous est même précisé le lieu, l'endroit dans la cour du temple où les croyants vont se rassembler, sous le portique de Salomon. Alors je vous avais montré une photo, voilà, ça c'est une maquette qui se trouve au musée d'Israël à Jérusalem. Et vous vous souvenez que le temple était constitué de cette immense cour. Et c'est dans cette cour qu'étaient installés les marchands, là, que Jésus a chassé. Et le portique de Salomon, c'est en fait le portique qui se trouve, vous avez la porte là, qui est ici, c'est le portique qui se trouve ici, qui longe, là vous avez un portique là, du côté ouest, et donc le portique de Salomon, c'est le portique qui se trouve en face du côté est. Ça signifie, on connaît l'endroit exact où les chrétiens se réunissaient lorsqu'ils se rassemblaient ensemble dans le temple de Jérusalem. Il y a un autre plan d'ailleurs, voilà, ça, c'est la perspective dans l'autre sens. Donc le portique de Salomon, c'est celui qui est ici, là, de ce côté-là, sur le côté droit de la photo. Ça veut dire que les chrétiens vont exploiter l'endroit qui offre la meilleure commodité pour se rassembler en grand nombre. Mais les apôtres ont quand même eu le souci que cette croissance numérique ne se fasse pas aux dépens des relations personnelles. Parce que c'est très facile de devenir un anonyme dans la multitude, et c'est plus difficile, sinon impossible, de faire du lien les uns avec les autres dans une communauté qui rassemble plusieurs milliers de personnes. Ça devenait un véritable défi. Et c'est pour ça que l'Église de Jérusalem ne s'est pas seulement rassemblée au temple, mais ils se sont aussi rassemblés dans les maisons. Ça nous est signifié à plusieurs endroits du livre des Actes, mais on peut lire Actes 2,46, où il est dit que chaque jour, régulièrement, ils se réunissaient, des chrétiens se réunissaient dans le temple. Ils prenaient leur repas ensemble dans leur maison et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils sont ensemble dans leur maison. Et puis, il y a un autre texte, un peu plus loin, dans Actes, chapitre 5, verset 42. « Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Les chrétiens se réunissaient dans les maisons. Ça signifie qu'il y avait des chrétiens qui ouvraient leurs maisons pour que les croyants puissent se rencontrer, pour qu'ils puissent se connaître, pour qu'ils puissent échanger ensemble, pour que la communication et la relation soient beaucoup plus faciles que dans les grands rassemblements qu'ils avaient régulièrement dans la cour du temple. Et une communauté composée de milliers de personnes pouvait ainsi prendre dimension humaine. Et à cette époque-là, les maisons les plus grandes, telles qu'elles étaient constituées selon l'architecture de l'époque, pouvaient contenir, ça dépendait des dimensions, mais entre 20 et 50 personnes. Vous aviez des maisons qui étaient constituées, qui avaient une cour centrale, ou alors vous aviez un lieu dans les maisons anciennes, parce que l'architecture romaine va avoir tendance un peu à s'imposer partout, et vous aviez une pièce qu'on appelait l'atrium, qui pouvait recevoir plusieurs dizaines de personnes. Voilà une photo, voilà à quoi ressemble un atrium. Vous avez le vestibule avec la porte d'entrée dans le fond. Et là, vous pouvez avoir 50, 70 mètres carrés. Donc, ça peut réunir entre 20, 50 personnes. Et ça veut dire qu'il y avait des personnes qui mettaient leur maison à la disposition des chrétiens pour pouvoir avoir la possibilité d'avoir ces relations personnelles. Ou ça pouvait être aussi des ateliers. On a quelques témoignages là pour l'époque d'après celle de la Bible. S'il y a 5000 personnes, vous voyez qu'il faut pratiquement plus de 200 maisons pour pouvoir réunir à peu près tout le monde. Mais c'est l'idée, c'est le principe qui est là derrière. Bon, on est nombreux, c'est réjouissant, c'est très bien, on se rassemble ensemble pour recevoir la parole, pour louer Dieu, pour prier. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on oublie que on est des frères, des sœurs. Et pour qu'on puisse le vivre concrètement, il faut qu'il y ait des plus petits groupes. Il y a le grand groupe, il y a le rassemblement, et puis il y a les petits groupes qui nous permettent de nous rencontrer. Se réunir dans le temple et dans les maisons, c'est complémentaire. C'est deux types de réunions qui visent en réalité le même but, enseigner et témoigner. Si on revient à Actes 5, 42, il est dit que chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. D'une certaine manière, ils font la même chose, rassemblés dans le temple et dans les maisons. On va passer à la deuxième partie sur la gestion de la multiplication. Je voudrais voir ça avec vous parce qu'un grand groupe et un petit groupe ne fournissent pas les mêmes choses. On vit des choses différentes lorsqu'on se rassemble tous ensemble, comme on le fait ce matin dans le cadre du culte, et lorsqu'on se rassemble dans des groupes qui sont plus réduits. Il y a un équilibre à trouver entre l'un et l'autre pour pouvoir bénéficier de ce que chacun, de ce que l'un et l'autre peuvent nous apporter de spécifique. Et tout d'abord, on va voir qu'est-ce que fournit un grand groupe. Tout d'abord, le grand groupe, le rassemblement, comme on le fait ce matin, ça fournit un temps spécial d'encouragement et de ressourcement. Quand on se réunit tous ensemble, comme nous avons l'habitude de le faire, et ça c'est vraiment inscrit dans l'identité de notre Église, ça atténue le sentiment d'isolement qu'on peut ressentir de temps en temps, le sentiment d'isolement qu'on peut avoir, et ça augmente le sentiment de sécurité. Ensemble, on se sent plus fort. J'ai eu l'occasion de travailler pendant plusieurs années au sein du DNJ, qui a organisé des rassemblements pour tous les groupes de jeunes des églises de France. Sur les deux derniers DNJ, il y a 3500 jeunes qui sont réunis. Mais la spécificité, et ça, les initiateurs du DNJ y tenaient beaucoup, c'était pas de réunir des jeunes, mais c'était de réunir des groupes de jeunes. Pourquoi ? Parce que, en fait, selon la taille des églises et selon leur situation géographique, les groupes de jeunes sont plus ou moins importants, comme les églises d'ailleurs. Et vous avez des groupes de jeunes dans lesquels il y a 4, 5, 6 jeunes, et puis ils sont là dans une ville qui n'est peut-être pas très active ou alors en milieu rural. Et puis vous avez d'autres villes, notamment dans les grandes villes, vous avez des groupes de jeunes, il peut y avoir plus de 100 jeunes. Alors le fait de se retrouver ensemble, ceux qui composent les petits groupes, quand ils arrivent avec tous les autres, ils se disent « Oh, mais on n'est pas tout seul ». Et ça donne un sentiment de sécurité. Ça donne un encouragement. On se dit, on n'est pas tout seul dans notre coin là, à vivre les choses et à se battre dans notre coin. En réalité, on est tous animés par une même espérance. On est plein de jeunes. Et vous voyez que le fait de se rassembler, ça instaure cette dynamique. C'est encourageant. Ça ressource. C'est la même chose quand on fait des rassemblements inter-églises. Simplement ici, dans le Val-de-Loire, on a des églises de taille et de dimensions différentes. Pour le coup, Cholet, ce n'est pas la même taille que Angers. Mais le fait de se réunir ensemble, c'est aussi ça, ça donne cet encouragement. On s'aperçoit, on a une vision beaucoup plus large de l'œuvre de Dieu. Et on se dit, mais on est tous ensemble là à prendre cette même direction dans notre foi. C'est le même mécanisme qui fonctionne au niveau des personnes. On peut être confronté les uns et les autres à de dures réalités quotidiennes. Vivre dans un environnement où règnent des valeurs qui ne sont pas les nôtres, où règne la compétition, où règne la critique, où règne le cynisme. Et c'est fatigant, c'est pénible d'être confronté à ça dans le milieu dans lequel on est. Et on se sent isolé, on peut se sentir isolé, parce que ce n'est pas nos valeurs, on ne se reconnaît pas dans le langage qui est tenu, on ne se reconnaît pas dans le comportement que nous voyons adopté par les gens qui nous entourent, nos voisins, nos collègues. Et ça entame nos forces. Et quelquefois, c'est vraiment fatigant. Et le rassemblement, ce que nous faisons le dimanche matin, ça permet régulièrement de s'extraire de cet environnement pour se ressourcer avec ceux et celles qui vivent les mêmes choses. Parce que ce que vous vivez dans votre semaine, ce que vous vivez dans votre quotidien, ceux qui sont assis à côté de vous, là, ils le vivent également. Et eux-mêmes aussi ont ce besoin. Et lorsque nous venons le dimanche matin, lorsque nous venons pour nous rassembler ensemble, on répond à cette sainte convocation, à cette invitation de Dieu, mais on vient tous unis dans cette aspiration. Quand on se rassemble, on répond à une invitation de Dieu, on se met d'accord pour adorer Dieu et pour recevoir sa parole. On dispose notre cœur ensemble à recevoir ce qui va nous être nécessaire pour retrouver la vitalité, pour retrouver la force qui nous est nécessaire. On met en commun notre soif, notre envie d'être édifié. Et de rencontrer Dieu afin que dans la présence de Dieu et dans l'Esprit de Dieu qui vient au milieu de nous, on puisse trouver cette force et cette vitalité dont nous avons besoin. On puisse se fonder sur cette parole qui est à la base de notre foi. On crée à chaque fois qu'on se rassemble ensemble un lien temporaire, certes, mais qui nous permet d'échapper aux contraintes que le monde veut nous imposer. Et on fait ce choix de fixer notre attention sur Christ, sur Dieu, sur la source de toute chose, la source de notre existence, la source de notre force. On est solidaire dans notre combat contre ce qui veut nous influencer et contre ce qui veut nous asservir et qui est autour de nous. On est au bénéfice des ressources de l'Église. Quand on se réunit ensemble là, on est au bénéfice de la méditation qui a été préparée. On est au bénéfice des chanteurs, des musiciens qui ont pris du temps, qui là se mettent à la disposition de la communauté pour pouvoir nous aider à rencontrer Dieu. On est au bénéfice des dons spirituels. Et ça, nous le vivons en commun, nous le vivons parce que nous le mettons en commun. Et ça, ce temps d'encouragement, ce temps de ressourcement, on est appelé à le vivre en particulier dans ces temps de grands rassemblements. Le deuxième point par rapport au rassemblement et au grand groupe, c'est que ça développe le sentiment d'appartenance. Un chrétien, on l'a vu, n'est pas appelé à vivre sa foi tout seul, isolé dans son coin. Un chrétien constitue un peuple avec les autres chrétiens. Et ça, Pierre le dit bien. Si on revient à ce texte dans 1 Pierre chapitre 2, il dit, verset 9, « Mais vous, vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant, vous êtes son peuple. Autrefois, vous étiez privé de la compassion de Dieu, mais maintenant, elle vous a été accordée. » Le fait de se rassembler régulièrement concrétise l'existence du peuple de Dieu. Le temple de Jérusalem, si on revient à cette image et au symbole qu'il nous donne, le temple de Jérusalem, à l'époque de Jésus, c'était la représentation symbolique de la présence de Dieu au milieu de son peuple, du peuple d'Israël, du peuple avec lequel il avait fait une alliance. Et le temple de Jérusalem fournissait un point de rassemblement pour tous les Juifs qui vivaient dans les différentes régions du pays d'Israël, mais même au-delà. On était juif quand on était en Galilée, quand on était en Pérée, quand on était en Idumée, quand on était à l'étranger en Syrie, quand on était en Égypte, quand on était en Grèce ou quand on était à Rome, mais on était le peuple d'Israël quand, ensemble, on se retrouvait à Jérusalem pour adorer Dieu. Et en tant que chrétien, c'est important vraiment de le réaliser, mais nous constituons un peuple. Alors, on n'est pas un peuple sur une base ethnique, mais sur une base spirituelle, ce qui nous unit les uns et les autres malgré nos différences, malgré toutes les histoires différentes que nous pouvons avoir, c'est notre foi en Christ. Ce qui nous unit, c'est que nous reconnaissons Jésus comme étant celui qui a accompli notre salut, comme celui qui nous ouvre la porte des cieux, comme celui qui nous permet d'avoir cette perspective et cette espérance de la vie éternelle. On a des histoires différentes, on vient de milieux différents, on vient de pays différents. Et pourtant, malgré tout cela, nous sommes ensemble ce matin. On n'a pas la même couleur, on n'a pas la même hauteur, on n'a pas la même largeur. Et pourtant, on est unis. On n'a pas fait les mêmes études, on n'a pas les mêmes projets personnels. Mais pourtant, nous sommes tous ensemble, ici. Il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni grec, il n'y a plus ni homme, il n'y a plus ni femme. Il n'y a plus ni esclaves, ni libres. Les conditions sociales, les origines ethniques, tout ça, ça n'existe plus. Il n'y a plus ni patron, ni ouvrier. Il n'y a plus ni balayeur, ni PDG. Il n'y a plus ni Togolais, ni Ivoirien, ni Français, ni Breton. Non, il n'y a plus ni Breton, ni Normand. C'est le plus grand miracle, ça, que le Seigneur ait accompli. Toutes ces différences et tout, peut-être ce qui pourrait nous séparer, quand nous sommes réunis ensemble, ça n'existe pas. Nous sommes un peuple, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes ceux qui avons reçu cette espérance, ce message, qui nous unit malgré nos différences et malgré ce qui peut-être pourrait nous séparer. Sentiment d'appartenance, ça renforce notre identité de croyant quand on est tous ensemble comme ça. Troisième point, le rassemblement aussi également assure la visibilité de l'Église. Regardez en Actes 3:11. Vous savez que Pierre et Jean sont allés au temple et puis il y a un boiteux qui se tenait à la porte et puis ils vont procéder à la guérison de ce boiteux. Et on lit en acte 3:11, alors que le boiteux a été guéri, qu'ils ne quittaient pas Pierre et Jean, et tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon, à l'endroit où ils avaient l'habitude de se réunir. Ça indique qu'après la guérison du boiteux, les gens savaient où trouver les croyants. Ils savaient exactement à quel endroit de la cour du temple ils se réunissaient. Et c'est la raison pour laquelle, là, ils voient l'Église réunie. Et on a la même chose en acte 5, au verset 12, où il est dit que beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Et le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits, des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. C'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a des réactions différentes. Parce qu'on voyait les chrétiens se réunir ensemble, on savait où ils étaient, mais il nous est dit qu'il y en a certains qui ne rejoignaient pas l'Église, mais ils savaient où elle était. Par contre, il y en a d'autres qui rejoignaient l'Église. Mais les uns et les autres savaient où le rassemblement des croyants avait lieu. Et si les apôtres se postent là dans la cour du temple, au portique de Salomon, c'est parce qu'ils pouvaient être vus et ils pouvaient être entendus, parce que le temple, c'était un endroit qui était très très fréquenté. Et on a une idée du résultat que ce choix de visibilité a pu avoir. Parce que quand on lit la suite du chapitre 5, Pierre, les apôtres sont arrêtés, ils sont mis en prison. Et puis, il y a un ange qui vient les délivrer. Et il nous est dit au verset 19, « Un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Ils vont à l'endroit où il y a le plus de monde, là où ils vont être visibles. Alors évidemment, les autorités, quand ils sont allés chercher les apôtres à la prison et puis qu'ils ont vu qu'ils n'étaient plus là, ils ont été un peu perplexes. Et on lit la suite des événements, chapitre, verset 24-25. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux prêtres ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un va leur dire, « Voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » C'était impossible de les louper, ils étaient visibles. Et le résultat, verset 28, les autorités s'adressent aux apôtres, il leur dit, mais nous vous avons formellement défendu d'enseigner ce nom-là, le nom de Jésus. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Parce qu'ils étaient à un endroit où ils étaient visibles, où ils pouvaient toucher le plus de monde possible. Et c'est la visibilité de l'Église qui a permis à l'Évangile de toucher toute la ville. Si je partage ça aussi, c'est parce qu'à l'heure actuelle, il y a plusieurs mouvement ou courant de pensée qui estime que ce n'est pas biblique de se réunir dans un lieu de culte, comme nous le faisons ce matin. Parce que les lieux de culte, en fait, sont apparus après l'époque de la Bible, après le Nouveau Testament. Ils se sont développés surtout à partir du IVe siècle, à un moment donné, où la société tout entière est devenue chrétienne. Ce n'était pas des conversions authentiques, c'est simplement que l'empereur romain étant devenu chrétien, il a imposé ou encouragé la population de l'Empire romain à devenir chrétien. Alors, c'était des conversions qui n'étaient pas forcément authentiques. Et à partir de ce moment-là, comme la population, tout le monde se disait chrétien, on a bâti des lieux de culte spécialement pour les chrétiens. Et vous avez certaines personnes qui disent, ça, c'est pas biblique. C'est quelque chose qui est venu après. Donc, le fait de se réunir dans un lieu comme nous le faisons, ça ne correspond pas à la Bible. Les chrétiens ne devraient se réunir qu'entre eux, dans les maisons, à la limite, ça c'est biblique. Il y a une réponse à cela, je crois qu'elle nous est donnée par ce que je viens de partager avec vous. Ce n'est pas le lieu de culte en soi-même que nous devons considérer, mais c'est la visibilité qu'il permet. Un lieu de culte, une adresse, une identification géographique, ça permet une meilleure visibilité que des maisons. On l'a vu, c'est biblique de se réunir dans les maisons, mais se réunir dans les maisons, c'est beaucoup moins visible. On voit bien la différence entre le temple et les maisons là-dessus. Ce qu'apporte la réunion dans le temple? Alors oui, on peut dire que c'est un élément culturel de notre civilisation occidentale qui a été influencé par la foi chrétienne, d'avoir un lieu de culte comme ça. Mais c'est un élément culturel de la même manière que le temple était un lieu de culte qui permettait ce type de rassemblement. C'était un élément culturel à l'époque des premiers chrétiens. C'était un lieu où les docteurs de la loi venaient pour enseigner. C'était un lieu considéré comme un lieu d'enseignement. Et d'ailleurs, pourquoi Jésus, quand il vient à Jérusalem, pourquoi est-ce qu'il va ? Il dit, quand on l'arrête, il dit, j'étais tous les jours dans le temple. Pourquoi est-ce que vous m'arrêtez maintenant ? Quand il venait à Jérusalem, il était tous les jours dans le temple parce qu'il voulait parler au plus de monde possible. Il voulait être visible. Et c'était le lieu où les docteurs de la loi se tenaient pour enseigner. C'était aussi un lieu de prière. Il y avait deux sacrifices qui étaient offerts chaque jour dans le temple de Jérusalem. Et au moment où ces sacrifices étaient offerts, les Juifs venaient au temple pour prier ensemble. Vous avez ce texte, vous savez, quand il y a la guérison du boiteux, dans Actes 3, 1, il nous a dit que Pierre et Jean vont monter au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, ça correspond à 15 heures pour nous. Ça, c'est le deuxième sacrifice de la journée. Parce que tout le monde venait pour prier au temple à ce moment-là. Un lieu de rassemblement, c'est un lieu qui, dans notre culture, rend l'Église visible. Et on va voir maintenant, rapidement, ce que fournit un petit groupe. Un petit groupe assure et stimule les relations fraternelles. En Actes 2, 42, nous lisons qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il persévérait dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. Là, on voit que la relation fraternelle, ce n'était pas théorique. La fraction du pain dont il est question ici, ça peut être une référence au partage du pain et du vin pour se souvenir de ce que Jésus a accompli à la croix. Mais ça se concrétisait par le partage de la nourriture. On l'a lu tout à l'heure, au verset 46. Il nous est dit qu'ils prenaient leur repas ensemble dans leur maison et mangeaient leur nourriture avec joie. Donc, ce n'était pas simplement théorique. Être dans les maisons, ça concrétisait la relation fraternelle. Partager de la nourriture, ça, c'est fraternel. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quand même que la qualité relationnelle, c'est un élément indispensable dans la vie d'une église. On est d'accord pour dire que l'enseignement est nécessaire. On est d'accord pour dire que la prière est nécessaire. Et ça, ce sont des éléments qui sont présents dans nos églises. Mais l'enseignement et la prière ne constituent que deux piliers de l'église de Jérusalem. Il est question aussi, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, de la communion fraternelle et de la fraction du pain. Et pour que l'Église tienne debout, il faut aussi que les deux autres piliers soient présents. Sinon, l'édifice est bancal. On peut être content d'avoir la prière, d'avoir l'enseignement, mais si à côté il n'y a pas la relation, la communion fraternelle, on n'est pas tout à fait équilibré. Ça, c'est très important que nous le réalisions. Parce que, naturellement, nous constituons des petits groupes. Et dans l'Église, il existe des liens naturels. Il y a des gens qui sont là et qui constituent des familles. Il y a différentes générations, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, sont des liens naturels. Il y a d'autres cercles qui se constituent par affinité. Plusieurs, nous sommes amis et nous avons constitué des relations d'amitié, soit avant de venir dans cette Église, soit depuis que nous venons dans cette Église. Mais parce qu'il y a des choses qu'on s'est découvertes en commun, qui nous ont rapprochés. Mais les relations dont parle le livre des Actes, là, il est question là d'un lien spirituel qui est fondé sur la foi que les croyants partagent. Ce n'est pas simplement ce qui nous unit naturellement, mais c'est ce qui nous unit spirituellement. Et c'est là qu'est le défi. C'est là qu'est le challenge pour chacun d'entre nous. C'est de ne pas simplement être au bénéfice des liens naturels qui nous unissent et qui nous conduisent à nous rencontrer, à passer du temps ensemble, mais c'est de créer ensemble des relations de qualité, au-delà du cercle que nous constituons naturellement. Ça veut dire nous rencontrer, avoir des occasions pour chacun d'entre nous d'être ensemble, de passer du temps ensemble. C'est pour ça d'ailleurs que l'Agape, la semaine prochaine, elle se prolonge jusqu'à la réunion de 15 heures pour qu'on puisse après voir ce film et discuter ensemble là sur le thème de la prière qui est lié à ce film-là. C'est créer une occasion où on ne va pas être forcément autant qu'on est ce matin, mais c'est créer une occasion pour pouvoir faire connaissance, pour pouvoir tisser ce lien spirituel entre nous. On n'est pas obligé, je ne sais même pas si c'est possible, on n'est pas obligé d'être tous des amis. Ouais, enfin, je veux dire, quand on a 400 amis, en fait, on sait qu'on n'a pas d'amis. Hein. C'est comme sur Facebook, on a 3000 amis, mais bon, la relation, elle n'est pas très profonde. Mais par contre, on est tous obligés d'avoir des bonnes relations ensemble. On est tous obligés de se respecter. On est tous obligés de bâtir quelque chose ensemble. même si on ne se connaît pas très bien, même si on a un minimum de relations. Pourquoi ? Parce que ça, ça va se sentir, ça c'est palpable, ça crée une atmosphère. Dans une église, c'est normal qu'il y ait de la joie, c'est normal qu'il y ait de la fraternité, c'est normal qu'il y ait de la paix, c'est normal qu'il y ait de la bonne humeur, c'est normal qu'on rigole, c'est normal qu'il y ait de l'humour. Les chrétiens, ils ne sont pas obligés d'être vaccinés au jus de citron. On est d'accord. Si on est sauvé, on est joyeux. Alors je sais qu'il y a des circonstances dans la vie qui nous amènent quelquefois à être tristes. Mais fondamentalement, il y a quelque chose de profond qui est là en nous, qui nous amène à être joyeux, qui nous amène à aller les uns vers les autres, parce que c'est cette espérance qui nous lie. Et ça veut dire aller au-delà de nos limites naturelles. Ça va avoir un impact sur l'atmosphère de l'Église. Et vous savez, ça, les gens, ils le sentent. Ils le sentent. Les gens qui, à l'extérieur, souffrent de la solitude. Les gens là qui n'ont pas des relations paisibles dans leur environnement familial. Les gens qui sont confrontés aux conflits dans leur univers professionnel ou autre. Quand ils arrivent et qu'ils sentent ça, ils sentent qu'il y a quelque chose qui nous unit, quelque chose auquel on travaille, au travers notamment de ces petits groupes. Ça, ça se sent, c'est palpable. Un petit groupe conduit également à la responsabilité mutuelle. Lorsque Paul dit aux chrétiens qui composent l'église de Corinthe, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Ça, c'est 1 Corinthiens 12, 27. Ces paroles, on les comprend. Elles ne sont pas difficiles à comprendre et on peut les accepter assez facilement. Mais c'est toujours important, quand on lit un texte, c'est de le remettre dans son contexte. Et si on prend la lecture un peu plus haut, au verset 25, Paul écrit « Il n'y a pas de division dans le corps, mais les membres ont un égal souci les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Là, déjà, ça prend une autre dimension, ça prend un autre sens. Être un corps, ce n'est pas quelque chose de théorique. Être un corps, c'est avoir le souci les uns des autres. Ça veut dire s'intéresser aux autres. Et ça, ce n'est pas possible au culte le dimanche matin. Là, je peux être assis à côté de quelqu'un qui a des gros problèmes et je ne peux absolument pas m'en apercevoir. C'est ce qui se passe peut-être pour la personne qui est assise à côté de vous. Et ça peut être le cas pour moi. Je suis là. Et c'est dur en ce moment-là, je vis quelque chose qui est vraiment difficile à vivre et la personne à côté de moi, elle ne peut pas forcément s'en rendre compte. Ce n'est pas un rassemblement, ce n'est pas un grand groupe qui peut permettre d'avoir le souci les uns des autres, de le manifester. Mais dans un petit groupe, je peux plus facilement me rendre compte des besoins des autres. Je peux plus facilement compatir, comprendre ce que la personne peut vivre et pour le coup, les gens avec qui je compose cette assemblée peuvent mieux comprendre aussi ce que je traverse, ce que je vis. C'est, l'Église, ce n'est pas de la théorie. L'Église, c'est du concret. Et ça, ça ne peut se faire que si on travaille à être ensemble, dans des petits groupes. Ça nous amène à avoir ce sentiment de responsabilité les uns par rapport aux autres. Et le dernier point, c'est que les petits groupes encouragent la persévérance dans la foi. Les grands rassemblements sont l'occasion de recevoir la parole, mais les préoccupations quotidiennes reprennent vite le dessus. On est là, on loue le Seigneur, on écoute la parole, on la reçoit, elle peut nous faire du bien. Après, on rentre chez soi, on mange, on regarde les infos, le 13h, on regarde les résultats sportifs à stade 2, on enchaîne avec Michel Drucker. Le film du dimanche soir, on se couche, et bam, lundi matin, le boulot. Le message qui a été donné à 10h30 le matin, des fois, le soir, au moment où on se couche, oh, il est déjà loin. Bon, vous n'allez pas dire amen, mais je sais bien, on est tous pareils. Et le fait d'avoir, se retrouver avec des frères, avec des sœurs, en dehors de ces grands rassemblements, c'est se donner la possibilité aussi de parler, d'échanger sur la parole, d'échanger sur ce qu'on a entendu, d'échanger sur ce qu'on a compris, sur ce qu'on n'a pas compris. Et on persévère dans la compréhension et dans la réception de la parole. ces échanges-là à dimension plus réduite nous permettent de réactualiser la parole, de la ranimer, de l'approfondir, de mieux la comprendre et même de voir comment je peux l'appliquer dans ma vie. Je sais que bien souvent, c'est une réflexion qui est faite, c'est quand tu prêches, moi ce que j'attends, c'est quelque chose de concret. En gros, c'est un peu, dis-moi ce que je dois faire pour bien vivre ma vie chrétienne. Dis-moi ce que je dois faire pour bien vivre ma foi. Sauf que moi, je ne me mets pas complètement dans cette logique-là. Là, ce que je fais avec vous ce matin, c'est ce qu'on fait la plupart du temps. On expose ce que dit la Bible et on le met devant vous pour que vous receviez cette parole et que vous puissiez voir comment vous pouvez l'appliquer. Mais si je commence à vous dire ce que vous devez faire pour l'appliquer, ça va devenir quoi ? Ça va devenir une règle. Ça va devenir un commandement. Moi, je peux vous dire, la semaine prochaine, il y a Agape, rendez-vous pour tout le monde à midi. Chacun amène à manger du salé, du sucré. Et tout le monde à 15h, on regarde le film. C'est ça ? Ça, c'est du concret. Mais je ne peux pas m'autoriser, parce que je sais que la foi chrétienne, c'est faire les choses parce qu'on veut les faire. Il faut que ça vienne de nous. C'est notre volonté, c'est notre choix qui doit être impliqué. Et je pense que le fait d'avoir la possibilité de se rencontrer dans des groupes beaucoup plus réduits, ça permet ça. Il y a des choses, là il y a des choses, il y a des déclics, il y a des choses, certains, ça y est, vous avez compris, des choses que vous n'aviez pas vues dans la Bible et vous le réalisez. Puis il y en a d'autres, vous entendez, bon c'est intéressant, mais ça va, je crois que ça ne va rien changer. Dans une heure, ça ne changera rien. Vous n'aurez peut-être pas forcément plus envie d'aller vers les autres. Parce qu'on n'est pas tous pareils et on avance chacun à notre rythme, on a chacun notre cheminement et ça se respecte. Et moi, je peux pas t'ordonner de comprendre tout ce que je dis là, ça sert à rien. C'est pour ça qu'il faut, quand on vient, c'est se préparer et dire « Seigneur, mais parle-moi là, parle-moi, je vais ouvrir mon cœur à ta parole et montre-moi comment je peux la vivre, montre-moi comment je peux l'appliquer. On parle des petits groupes là, mais montre-moi comment je peux rencontrer du monde. » Donne-moi de dépasser ce que je ressens là. Moi, j'ai pas tellement envie d'aller vers les autres, j'ai pas tellement envie de passer du temps avec les autres, mais voilà, mon challenge, c'est ça. Seigneur, remplis-moi de ton esprit et donne-moi, là, je vais venir à la GAP la semaine prochaine. Ça, c'est le défi que vous pouvez vous donner, mais c'est pas quelque chose que je vais vous donner comme ça. Ça vient de Dieu, ça vient de l'esprit, ça vient de nos relations avec Dieu. En Colossiens 3,16, Paul décrit ce qui se passe dans des petits groupes. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur avec reconnaissance. Tous les 15 jours, les jeunes ils se retrouvent dans la semaine et puis dans une maison, dans un appartement. Et c'est ce qu'ils font, ils sortent la guitare, ils chantent, ils s'édifient, ils reviennent sur le message, sur ce qui a été partagé le samedi d'avant. Et la parole, ils la réactualisent, ils réfléchissent. Ils disent, ça, j'ai pas compris, ça, ok. Ils partagent leur expérience. Et ça, on peut pas le faire dans un grand rassemblement. Mais on peut le faire dans des petits groupes comme ça. Voilà les principes qui ont guidé les premiers chrétiens et qui sont consignés dans la parole, et dont il est certainement utile de s'inspirer. Il ne s'agit pas d'appliquer une méthode, il ne s'agit pas d'appliquer un système, une technique ou une recette, on est bien d'accord, mais il s'agit de repérer dans l'Écriture ce qui va permettre au Saint-Esprit d'agir, ce qui va favoriser la vie de l'Esprit, et qui va nous permettre de bâtir, de construire cette Église. C'est Christ qui bâtit son Église. Je bâtirai mon Église. Et c'est cette foi en vérité, la foi en cette vérité qui doit guider notre action, qui doit inspirer notre vision, qui doit nous réunir. Ça ne dépend pas simplement de nous. Ça dépend de l'œuvre de l'Esprit que nous laisserons faire en nous. Même s'il y a eu des oppositions, des menaces, comme nous lisons dans le livre des apôtres, sa volonté s'est accomplie. Et je crois que c'est pareil pour nous. Même s'il y a des moments où c'est compliqué, c'est difficile, on sent les menaces, on l'a partagé ensemble tout à l'heure, eh bien, je crois que sa volonté s'accomplira. Je crois que la vision qu'il nous a laissée dans le livre des Actes des Apôtres s'accomplira. Le livre des Actes raconte qu'un chrétien nommé Étienne a prêché Christ dans les synagogues de Jérusalem. Et il avait une prédication formidable. Il nous a dit que Étienne était rempli de sagesse, il était rempli du Saint-Esprit. Et quand il prêchait, quand il annonçait Jésus, personne ne trouvait d'argument pour dire le contraire. Et il disait que Jésus était le Seigneur, il disait que Jésus était le Sauveur. Et ça portait du fruit, il y avait des gens qui recevaient cette parole, il y avait des miracles qui s'accomplissaient, des conversions. Mais voilà que Étienne, qui devait provoquer la joie de l'église de Jérusalem, il est arrêté, il est jugé et il est condamné à mort. Il est lapidé. Et il nous est dit que sa lapidation a provoqué une persécution qui a obligé beaucoup de chrétiens à quitter Jérusalem. Vous imaginez ça? Des centaines de personnes, des milliers de personnes, et la persécution s'abat, et il y a toute une partie de l'église qui est obligée de partir. Acte 8, verset 1. Dans ce jour-là, il y a une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. L'église est confrontée à la mort. Dans l'église de Jérusalem, c'est la tristesse. Dans l'église de Jérusalem, à ce moment-là, c'est les pleurs. C'est ce qui est dit dans le texte. C'est l'opposition. Et je pense qu'il y avait toutes les raisons du monde pour les chrétiens de Jérusalem de se poser des tas de questions, de ne pas comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? On est en train d'accomplir une vision, il y a quelque chose d'exaltant, on voit des choses s'accomplir et il y a ça qui arrive. Il y a Étienne qui est mis à mort. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de miracles? Pourquoi est-ce que Dieu parle? Pourquoi est-ce que Dieu touche? Et que Étienne disparaît. Pourquoi est-ce qu'il est emporté comme ça? Mais il nous a dit qu'alors qu'Étienne était en train de tomber sous les pierres pendant qu'il était lapidé, il nous a dit qu'il a eu cette vision. Chapitre 7, verset 55. Il nous a dit alors qu'il ouvrait les yeux, qu'il a vu Jésus dans sa gloire. Et il est précisé que dans cette vision qu'il a, il voit Jésus qui est debout à la droite de Dieu. Debout à la droite de Dieu. Et ça, c'est vraiment très intéressant, parce que quand on lit les évangiles, il nous est dit que Jésus, lorsqu'il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu. Et lorsqu'Étienne voit Jésus, alors qu'il tombe sous les pierres, il le voit debout. Il est là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Jésus, il n'est pas dans l'éther. Il n'est pas dans un endroit complètement nébulé, complètement déconnecté de ce qui se passe sur la terre. Il règne, il est souverain. Mais quand il y a quelqu'un comme Étienne qui est dans la fournaise, quand il y a quelqu'un comme Étienne qui est dans la souffrance, qui est dans l'épreuve, il se lève. Comme s'il ouvrait ses bras, comme s'il tendait la main à Étienne. Et qui lui dit, mais tiens bon, Étienne, tiens bon, je suis avec toi. Tu es en train de crouler sous les pierres. On te moque, on te met à mort. Mais je suis là, je ne suis pas passif. Je ne suis pas sur un trône à des années et des années-lumière de ta condition, de ce que tu es en train de vivre. Je ne suis pas là-haut, tout seul sur mon trône, tranquille. Mais je m'implique. Je m'implique dans ton existence. Je m'implique dans ta vie. Je m'implique dans ton épreuve. Je m'implique dans ta souffrance. Et de ce qui paraît être une défaite, il en ressort une grande victoire. Les chrétiens sont obligés de se disperser, mais regardez ce qui est dit un peu plus loin, en verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Et c'est comme ça que la parole va atteindre la Samarie. Souvenez-vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie. Une nouvelle étape de franchie. Tout semblait dire le contraire. On avait l'impression que la vision allait s'arrêter. On avait l'impression que ce que Dieu accomplissait, ça n'allait pas aller plus loin. Et là, du milieu de cela, va jaillir l'accomplissement de la vision et la vie qui va continuer de venir. La vie qui va continuer de se manifester. Non seulement au travers des personnes, parce que Étienne laisse un témoignage extraordinaire, mais au travers d'une église qui continue de se multiplier, qui continue de grandir. Alors on va prier ensemble. Et je voudrais penser à ceux qui parmi vous tombent sous les pierres en ce moment, à ceux qui sont dans la souffrance, à ceux qui sont dans l'épreuve. Et peut-être que tout ce que nous avons pu partager ce matin, mais ça vous passe au-dessus de la tête. Je dis, mais oh là 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 là, la multiplication, la croissance, moi je suis tellement loin de ça. Là, avec ce que je suis en train de vivre, avec ce que je suis en train de traverser, mais moi, ma vision, c'est au quotidien, c'est jour après jour. Je ne peux pas porter mon regard vers l'horizon comme ça a été partagé avec ce matin. Mais Jésus est avec toi. Jésus, il est debout. Alors même que tu es dans la fournaise, alors même que tu croules sous les problèmes, alors que même cette situation, elle s'impose à toi et que tu as l'impression que c'est impossible d'en sortir, sache et reçois ce matin que Jésus, il est debout. Jésus, il s'implique dans ta souffrance. Jésus s'implique dans ton épreuve. Moi, je ne peux pas comprendre ce que tu es en train de vivre. Moi, je ne suis pas à ta place. Mais je sais que Jésus, la souffrance, il connaît. Je sais que la solitude, il connaît. Et il est là, debout. Et il te tend la main, il est là avec toi, il est ton secours, il est ton chemin, il est ton destin, il est ton refuge. Seigneur, vois ce qui a été partagé ce matin, Seigneur Dieu. Notre désir, c'est de nous unir. Seigneur, je te prie pour qu'on s'unisse sur cette vision. Nous sommes penchés sur ta parole, nous voulons nous fonder sur ta parole. Parce que Seigneur, ta parole, elle est la vérité. Et ce que nous y lisons, c'est ce qui nous permet de vivre, nous, personnellement, mais c'est ce qui permet à ton Église de vivre. Et nous voulons que notre Église, ici, l'Église évangélique d'Angers, s'alimente de ta parole, s'alimente de la vie qui passe par ta parole, s'alimente de ce que le Saint-Esprit veut nous communiquer, à nous personnellement, mais à nous collectivement aussi. Seigneur, je te prie pour que ta parole puisse avoir son effet dans nos cœurs et dans nos vies. Et ce miracle, je te demande, c'est celui de nous unir, de nous regrouper. Et donc nous puissions regarder ensemble vers cet horizon. Pas simplement à ce que nous vivons en cet instant, mais de placer notre foi dans ce que tu veux accomplir, dans ce que tu veux faire. Je ne veux pas renoncer à ce que dit ta parole. Je ne veux pas renoncer aux miracles. Je ne veux pas renoncer aux guérisons. Mais je veux voir ces choses s'accomplir pour que la multiplication qui est selon ta volonté puisse se manifester et se faire. Seigneur, bénis mes frères et bénis mes sœurs qui sont dans la tourmente, Seigneur. Bénis ceux, Seigneur Jésus, qui sont dans la souffrance. Et je te demande que par ton esprit, tu puisses vraiment te révéler, Seigneur, comme étant ce Jésus qui est debout. Tu n'es pas loin d'eux. Tu n'es pas loin de nous. Tu es à nos côtés, beaucoup plus proche sans doute que nous l'imaginons. Et je te demande, Seigneur, qu'en cet instant où nous nous encourageons, où nous nous ressourçons, où nous revenons à ta parole et que nous cherchons ta présence, je te demande que tu te manifestes dans leur cœur, dans leur vie, Seigneur, concrètement. Viens les consoler. Viens les fortifier, viens changer leur vie, viens changer leur cœur, ouvre une porte, Seigneur. Accomplis, Seigneur Jésus, ta volonté, Seigneur, que ta puissance et ta force soient avec eux, Seigneur, en cet instant.